Europe 1, en balade avec Laurent Alexandre. Frédéric Taddeï.
C'est avec Laurent Alexandre que nous partons en balade aujourd'hui, l'auteur de La mort de la mort et de La guerre des intelligences, chirurgien, urologue, énarque. Il est devenu millionnaire en créant et en revendant Doctissimo, le site web consacré à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, il dirige DNA Vision, une entreprise de séquençage de l'ADN. Il investit dans des startups et il nous raconte le futur dans l'Express. Un futur ultra technologique qui lui vaut quantité de polémiques sur les réseaux sociaux où cet agitateur est également très actif.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Bonjour Laurent Alexandre.
Bonjour Frédéric.
Vous avez donné rendez-vous sur le pont Alexandre III, rien à voir avec votre prénom, enfin avec le prénom de l'ancien tsar, le fait que vous-même vous appeliez Laurent Alexandre.
Non, aucun rapport à mon nom.
Donc on est sur un pont magnifique qui était surmonté par des candélabres en bronze. Il y a quatre pylônes aux quatre extrémités avec les quatre renommées dorées tout en haut, la renommée des arts, celle des sciences, la renommée de la guerre, la renommée au combat. Un très très beau pont, très célèbre, mais ceci ne m'explique pas ce que nous faisons là.
1900, c'est l'exposition universelle, on crée le Grand Palais et le pont, et c'est le moment où la France est sûre d'elle, dominatrice, elle aime la science, elle aime le progrès, elle réussit dans tous les domaines, un tiers des brevets technologiques dans le monde sont déposés par la France.
À cette époque-là.
En 1900, c'est le moment où la France est le plus puissant qu'elle n'a jamais été.
C'est vrai qu'on est en pointe dans tous les secteurs de pointe.
Dans tous les secteurs. Et les savants de la République sont vénérés, alors qu'aujourd'hui, ils sont méprisés par une société qui est devenue profondément pessimiste.
On était à l'époque des grands constructeurs automobiles, on était dans le cinéma, on l'avait inventé.
Les frères Lumière.
On était...
Dans l'aviation.
Dans l'aviation, beaucoup.
Dans la chimie. Dans l'électronique aussi, dans le début des technologies électriques. Il n'y a pas de domaine où la France n'excelle pas en 1900.
Et vous voyez ce pont qu'on inaugure à l'époque avec le tsar Nicolas II. Hein. En 1900, il est venu pour l'exposition universelle. Et le pont, on l'a nommé comme son père, Alexandre III, qui lui était un fief réactionnaire d'ailleurs. Vous trouvez que ce pont est symbolique de ce moment-là ?
Ce pont est symbolique de prouesse architecturale parce que depuis ici, on voit le Grand Palais qui est une coupole absolument extraordinaire. Au moment où l'Angleterre et la France se faisaient la guerre technologique sur les bâtiments d'exception, c'est le symbole d'une république triomphante, d'une république optimiste, d'une république qui vénère ses savants, ses scientifiques et qui a une grande confiance dans l'avenir.
Vous voulez dire tout ce que nous ne sommes plus.
J'ai bien peur que cet optimisme de la Troisième République ait été assassiné par les adeptes de Greta Thunberg.
Ah oui, c'est vrai que vous avez une dent contre Greta. On y reviendra sûrement. Mais comment expliquez-vous ça? Parce que ce n'est pas une jeune fille de 16 ou 17 ans aujourd'hui qui a changé la façon dont la France concevait son avenir.
Non, mais Greta Thunberg contribue à décourager les jeunes. Elle les pousse à ne pas aller à l'école. Elle explique que d'aller à l'école ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de futur. Alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de jeunes bien formés, de jeunes bien éduqués pour gérer le monde de demain qui va être absolument extraordinaire, vertigineux, fantastique. L'aventure humaine en réalité ne fait que commencer. Et on essaie, Greta Thunberg en tout cas, essaie de convaincre la jeunesse que la fin du monde arrive. Alors qu'en réalité l'aventure humaine débute tout juste.
Frédéric Taddeï se balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Alors c'est vrai que pour moi, vous êtes l'un des derniers vrais progressistes. Progressiste au sens où vous croyez vraiment encore dans le progrès technique, le progrès scientifique et même le progrès social. Parce que pour vous, le progrès social découle du progrès scientifique et du progrès technique. Il n'y en a plus beaucoup, comme vous. Il y en a eu beaucoup. En 1900, il y en avait énormément. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup.
Les optimistes comme moi se cachent. Car en réalité, aujourd'hui, si on ne prédit pas la fin du monde, on passe pour un salaud.
Donc, c'est vrai que souvent, sur les réseaux sociaux, on vous prend pour un salaud.
Oui, si on ne dit pas que la Terre va très mal, qu'elle va disparaître, on est considéré comme un irresponsable. Donc le culte du progrès, la confiance dans demain a beaucoup reculé. Alors même, et c'est ce qu'il faudrait quand même expliquer aux jeunes, que 2019 est objectivement la plus belle année qu'ait connue l'humanité.
Oui, vous pourriez dire d'ailleurs de toute la décennie que nous venons de vivre, ce qu'on appellera bientôt les années 10.
Exactement.
Au fond, les années 10, pour vous, c'est l'âge d'or. On n'avait jamais fait mieux
avant. On n'a jamais eu une aussi faible mortalité infantile. Jadis, un enfant sur deux mourait en bas âge.
Et ça, c'est vrai à l'échelle globale.
À l'échelle mondiale. Il n'y a jamais eu une aussi faible mortalité des mamans à l'accouchement. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts par maladies infectieuses. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts par catastrophes naturelles. Les morts par catastrophes naturelles ont été divisées par 1000 depuis 1931. Le taux d'alphabétisation n'a jamais été aussi grand. Le niveau de vie moyen sur Terre n'a jamais été aussi élevé.
C'est vrai qu'on a éradiqué une partie de la plus grande pauvreté sur cette Terre.
Et la grande pauvreté est passée de 85% de la population mondiale à 10%. C'est extraordinaire, même si tout ne va pas très bien. On ne se rend pas compte que l'espérance de vie en 100 ans sur Terre a doublé.
On ne se rend pas compte non plus à quel point la violence a reculé. On croit qu'on vit des époques très violentes, alors que non, statistiquement... on vit des époques peu violentes. La guerre fait moins de morts qu'autrefois. Il y en a moins, elles font moins de morts. Et puis, de moins en moins d'assassinats, de meurtres.
On ne pouvait pas, du temps de Louis XIV, on ne pouvait pas traverser la forêt de Versailles le soir. On se faisait étriper par les brigands.
Sans remonter aussi loin, même dans les années 70-80, les guerres faisaient beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui. Et on risquait plus souvent sa vie dans le métro qu'à présent.
L'année de ma naissance, il y avait quelques centaines de milliers de jeunes Français qui étaient en Algérie et qui faisaient la guerre.
Mais ce qui est étrange, Laurent Alexandre, c'est quand on dit tout cela, on a l'air d'être désilluminé. Vous en rendez bien compte. C'est-à-dire, moi je sais, pour être animateur de télévision, que pour avoir dit ça quelquefois, j'ai reçu des tonnes de lettres d'insultes parce que je disais tout simplement, je me souviens en 1994 sur Canal+, j'avais dit que La France et les Français étaient plus riches que jamais. Et les gens le prennent très mal parce qu'ils voient bien qu'autour d'eux, il y a des gens pauvres, il y a des gens qui souffrent. Et quand on dit ça, ils ont l'impression qu'on les insulte ou qu'on réduit à néant ces gens-là.
La France a toujours bien aimé la vision pessimiste et apocalyptique du monde. Elle ne réalise pas que l'état du monde s'est amélioré. Et puis, il y a plein de gens qui jouent la politique du pire, notamment les Verts. Qui pousse les Français à penser que le monde d'avant était formidable et que le monde d'aujourd'hui est épouvantable. C'est d'ailleurs assez drôle. C'est le contraire de 1984, le roman. Dans 1984, le parti essaie de convaincre l'opinion que le passé était horrible et que le moment présent est formidable. Il explique que la ration de chocolat a augmenté, alors qu'en réalité elle a baissé. Le parti manipule en permanence le passé et le présent. Aujourd'hui, les écologistes, ils font la même chose, mais de façon inversée. Ils essaient de convaincre l'opinion que le passé était formidable et que nous vivons un cauchemar et que pour sortir de ce cauchemar, il faut accepter de réduire nos libertés et de rentrer dans une dictature verte.
On se retrouve avec Laurent Alexandre et son optimisme dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec le docteur Laurent Alexandre. C'est un optimiste, il croit encore à un avenir radieux pour l'humanité. Il est vraisemblablement une espèce en voie de disparition à lui tout seul. Vous vivez comme ça ou vous avez l'impression que néanmoins, il y a des gens qui partagent votre vision ?
Je crois que les gens optimistes doivent avoir le courage d'énoncer les vérités sur le fait que la France, que le monde va mieux que dans le passé.
Parce qu'après tout, c'est pas une mauvaise nouvelle que de dire que le monde ne va pas aussi mal qu'on peut le penser.
Oui, mais il y a des tas de gens qui ont un intérêt politique à faire croire le contraire à l'opinion.
Là, on est juste devant l'Assemblée nationale. Vous croyez que l'Assemblée nationale est remplie de gens qui pensent que on a intérêt à faire...
Non, mais par faiblesse et pour avoir les voix des écologistes et des gens de sensibilité écologiste, ils sont prêts à raconter qu'ils croient à la fin du monde. Parce qu'il est électoralement très très gagnant aujourd'hui d'être collapsologue, d'être pessimiste, d'annoncer la fin du monde. Les prophètes de malheur ont aujourd'hui le vent en poupe électoralement.
Alors Alexandre, vous croyez par exemple à l'homme augmenté, on en parle sans arrêt de l'homme augmenté, généralement ça fait frémir, ça inquiète. Vous l'appelez de vos voeux, au fond vous souhaitez un transhumanisme démocratique, un transhumanisme pour tous. Le cœur artificiel qui commence à fonctionner maintenant et autres prothèses, vous voudriez que chacun puisse en bénéficier.
Je pense que le progrès médical qui aujourd'hui est extraordinaire doit être partagé. Les nouvelles thérapies géniques dans le cancer qui valent 300 000 euros par an et par malade et qui permettent de guérir la quasi-totalité des leucémies, par exemple. Les nouveaux médicaments, les nouvelles thérapies géniques qui permettent de guérir certaines myopathies qui valent 2 millions de dollars doivent être donnés à tout le monde. Je pense que le progrès qui est aujourd'hui vraiment fascinant, notamment dans le domaine médical, doit être partagé avec tout le monde. Je n'imagine pas une société dans laquelle, décroissantiste, dans laquelle la sécurité sociale ne pourrait pas payer les traitements d'exception à tout le monde. Or, on y va. Les gens qui veulent la décroissance cachent en réalité que la décroissance, c'est la promesse du retour de la mort par cancer, de l'impossibilité de soigner les gens quand ils ont des maladies graves. En réalité, la décroissance, c'est pas du tout la défense des coquelicots. C'est de rentrer dans un monde ultra inégalitaire.
Europe 1, en balade avec Laurent Alexandre. Frédéric Taddeï.
Vous vous êtes rendu célèbre auprès du grand public avec un livre qui s'intitule « La mort de la mort ». Vous y annonciez que la personne qui vivra 1000 ans est peut-être déjà née aujourd'hui. Est-ce que vous y croyez vraiment ?
Je suis persuadé que, notamment à cause de l'investissement important de Google dans ce domaine et la création par Google d'une filiale destiné à euthanasier la mort, à nous rendre immortels, qui s'appelle Calico. Je suis persuadé que c'est un enjeu industriel majeur et que les gens de la Silicon Valley et les Chinois vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle et les thérapies géniques pour augmenter notre espérance de vie.
C'est normal, l'immortalité a toujours été une quête de l'espèce humaine depuis les origines.
Sauf qu'on n'avait pas la technologie pour le permettre. Or aujourd'hui, on commence à voir apparaître des technologies qui pourraient nous permettre de vivre plus longtemps.
Mais dans quelles conditions? Vous savez bien que, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes médecin, vous savez bien que le corps humain ne peut pas vivre au-delà d'un certain nombre d'années. Alors ce sera quoi, nos clones?
On ne peut pas vivre au-delà d'un certain année, sauf si on change les règles. Si on change... Vous savez, en 1820, les gens étaient persuadés qu'on ne dépasserait jamais 40 km/h.
Oui, c'est vrai, parce que le train nous rendrait fous.
Un cheval ne peut pas dépasser, il n'y avait pas encore le train, un cheval ne peut pas dépasser 40 km/h.
Si, 70 km/h au galop, je crois.
Pas durablement. Et en réalité, le train peut, pendant plusieurs heures, dépasser ces limites-là. Donc aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 120 ans, 123 ans, hein, l'âge de Jeanne Calment. Mais demain, avec d'autres technologies, on le pourra probablement.
Et la manipulation du génome, on y va de façon certaine pour vous ?
Ça va. Alors, on le fait aujourd'hui en standard. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de malades sur Terre qui sont traités par manipulation génétique de leurs globules blancs pour permettre à leurs globules blancs de mieux attaquer les cellules cancéreuses.
Ça
se fait tous les jours. Donc, nous faisons déjà aujourd'hui des manipulations génétiques en cancérologie. Demain, est-ce qu'on ira plus loin? Et est-ce qu'on ira vers la sélection des embryons, vers la modification des embryons, ce qu'on appelle le bébé à la carte, où les parents choisissent les caractéristiques génétiques de leur enfant? La société le dira. En Europe, peut-être pas, mais en Chine, très certainement.
Et si on le fait en Chine, vous êtes ceux qui disent que les riches prendront l'avion pour faire la même chose à leurs enfants.
Ou nos enfants deviendront les larbins des Chinois augmentés de 2060.
Il y a les premiers tests permettant d'estimer le quotient intellectuel du futur enfant aujourd'hui en séquençant le génome de l'embryon.
Oui, mais la société qui a sorti ce test a décidé de ne pas donner les résultats aux parents pour éviter que les parents choisissent un enfant plutôt plus intelligent et soit fassent des avortements des enfants moins malins, soit sélectionnent en fécondation in vitro le meilleur embryon, parce que les fabricants de ce test ont considéré que ce ne serait pas moral.
Mais vous faites partie de ceux qui se disent, après tout, si on peut devenir plus intelligent, sautons sur l'occasion. Si on peut s'implanter des microprocesseurs dans le cerveau,
à une seule condition. Politiquement, je suis pour l'interdiction des technologies d'augmentation intellectuelle si elles ne sont pas partagées. C'est-à-dire une société dans laquelle l'aristocratie de l'intelligence serait encore plus intelligente pendant que les pauvres n'auraient pas la possibilité d'accéder à ces technologies-là serait cauchemardesque. Donc oui aux technologies d'augmentation intellectuelle si elles bénéficient d'abord aux gens les moins favorisés sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, et non si on renforce encore la puissance de l'intelligentsia et de l'aristocratie intellectuelle.
On continue notre balade avec Laurent Alexandre. Nous sommes sur le boulevard Saint-Germain. Il fait très beau. À tout de suite.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Nous sommes en balade avec Laurent Alexandre sur le boulevard Saint-Germain. Laurent Alexandre, c'est l'auteur de La mort de la mort, de La guerre des intelligences. C'est quelqu'un que beaucoup soupçonnent d'être transhumaniste sans vouloir l'avouer. Au fond, souvent ce que vous dites, Laurent Alexandre, ça consiste à dire de toute façon, le transhumanisme existera. S'il est interdit ici, il sera permis en Chine ou ailleurs. Donc autant l'autoriser, nous aussi. C'est ça, au fond, votre discours.
Je pense que dans le futur, les gens préféreront être puissants et bénéficier de tous les pouvoirs d'Homodeus que d'être des petites choses fragiles. Donc, la société dans son ensemble va plutôt favoriser les technologies d'augmentation que les technologies de diminution.
Vous dites, au fond, pourquoi se priver de quelques points de QI en plus ? Vous voyez ça un peu comme la chirurgie esthétique.
Non.
Si la chirurgie esthétique nous rendait vraiment plus jeunes et plus beaux.
Ouais, non, alors je pense que c'est plus important que la chirurgie esthétique et je ne suis pas favorable à la chirurgie esthétique parce que je trouve que les gens qui font des liftings sont momifiés et ne sont pas très beaux.
Voilà, c'est parce que c'est pas réussi. Mais oui. Si c'était réussi, pourquoi s'en priver ?
Pour l'instant, ça n'est pas encore extraordinaire, de mon point de vue.
Mais vous imaginez si les techniques d'augmentation, les thérapies géniques qui sont censées nous rendre plus intelligents, si elles échouent ? Comme parfois, les opérations de chirurgie esthétique peuvent échouer.
Tous les traitements peuvent avoir des effets secondaires. Donc, les technologies d'augmentation pourront aussi, par accident, nous diminuer. Comme parfois, un médicament qui est censé nous guérir nous tue. Et il y a des médicaments qui tuent, même si c'est très rare et même si c'est beaucoup, beaucoup moins important que les cas où les médicaments nous sauvent.
Ce que les gens redoutent, Laurent Alexandre, c'est qu'il y ait un jour deux humanités, ceux qui maîtrise l'intelligence artificielle, grosso modo, ce seraient les riches, ce que vous appelez l'aristocratie, et puis ceux qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est ce à quoi on se prépare. C'est comme si on y était résigné.
Ah ben on est résigné. Ce qui caractérise nos sociétés, c'est qu'elles ne luttent pas contre les inégalités intellectuelles et elles ne prennent pas en compte le fait que dans le futur, dans une économie de la connaissance, dans le monde ultra complexe dans lequel on rentre, il y aura une énorme prime aux gens les plus malins. Et qu'il faut tout faire pour réduire les inégalités intellectuelles. Mais ça n'intéresse pas les politiques. Les politiques nient les différences de capacité intellectuelle entre les individus et donc ne s'intéressent pas à la réduction des inégalités intellectuelles puisqu'ils considèrent qu'il n'y en a pas. Nos élites politiques aujourd'hui considèrent que les gens qui réussissent moins sont des fainéants. Alors que ce ne sont pas des fainéants, ce sont des gens qui ont moins de facilité. Et il faudrait trouver, inventer des méthodes éducatives qui permettent de réduire les inégalités cognitives, les inégalités intellectuelles. Parce que dans une économie de la connaissance, toutes les inégalités économiques seront liées aux inégalités intellectuelles.
Mais est-ce que vous ne prêtez pas trop de qualité à ce qu'on pourrait qualifier de supériorité intellectuelle, ce qui se résumerait à avoir plus de points de QI que les autres? Il n'y a pas que le QI. Les Américains avaient inventé le QE, mais on pourrait tout simplement parler de l'empathie. Il y a des gens qui ont beaucoup de points de QI et qui sont incapables de se faire comprendre, incapables de se faire aimer, incapables de se mettre à la place des autres, incapables, au fond, de vivre en société de façon harmonieuse.
Vous faites l'hypothèse que les gens qui ont des bonnes capacités intellectuelles ne sont pas empathiques. Or, statistiquement, ça n'est pas vrai. L'intelligence n'empêche pas d'être empathique. Au contraire, les gens plus malins comprennent mieux la psychologie des autres. Même s'il y a des exceptions, bien sûr.
Je ne dis pas que c'est incompatible, je dis que ça ne se suffit pas à soi-même.
Non, mais de bien comprendre le monde est quand même un atout important dans une société ultra complexe.
Europe 1, 11h30, en balade avec Laurent Alexandre, Frédéric Taddeï.
Quand vous dites que le futur sera vertigineux, c'est le titre de votre chronique dans l'Express, ça peut vouloir dire à la fois qu'il sera fascinant et extraordinaire et qu'on en bénéficiera, comme ça peut dire aussi le contraire.
Le monde va être extraordinaire et va être fascinant parce qu'il est vertigineux et parce que les vagues technologiques fantastiques qu'on connaît aujourd'hui vont éviter un monde monotone et vont donner un nombre incroyable d'opportunités à nos gamins. Le monde sous Louis XIV ne changeait pas. On allait se faire tuer à la guerre, on avait une famine tous les 5 ans, il ne se passait pas grand-chose.
Là, il se passe des tas de trucs, vous avez vu.
Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est que l'ennui n'est plus possible, tellement il y a de vagues sociétales, politique et technologique. Donc oui, le monde est vertigineux et fascinant à la fois.
Il y a une chanson que j'aimerais bien vous faire écouter, Laurent Alexandre, c'est Demain, par le groupe Pigalle. Parce que là aussi, c'est une vision de l'avenir qui peut être assez optimiste, à moins qu'il ne soit sarcastique quand il chante, François Hadji Lazzaro, vous me direz.
Demain, quand tu t'éveilleras, tout aura changé autour de toi. Demain, tu n'en reviendras pas, tu seras envahi par tant d'émoi. Demain, au lever du soleil, tu verras plus rien ne sera pareil. Demain, tes yeux ouverts découvriront un autre univers. Demain, tout sera doux, si doux, tu caresseras tout de bout en bout. Demain, tout ce qui était si laid va devenir, tu verras, presque parfait. Demain, tout sera calme ici-bas, l'horrible bruit des bombes, on l'oubliera. Demain, plus de chimique odeur, ça sentira l'arôme des fleurs. Quand tu t'éveilleras, tout sera beau devant toi. Demain, tu n'entendras plus de pleurs, même au bout du monde, plus de malheur. Demain, quand tu toucheras tes seins, attendri béat, ils frétiront sans fin. Demain, aventure sur les chemins, plus de cul-de-sac, un doux destin. Demain, quand tu respireras, une goutte d'air câline te ravivera. Quand tu t'éveilleras, tout sera beau devant toi. Demain, quand tu réaliseras, plus rien n'est ordinaire, tu seras sans voix. Demain, qu'importe tes souvenirs, il y aura tout, de tout à découvrir. Demain, ce sera croustillant, de la galette au beurre jusqu'au rire d'enfant. Demain, plus de haine, plus de peur, ni de gêne. Quand tu t'éveilleras, tout sera beau devant toi.
C'était Demain, interprété par le groupe Pigalle. On est arrivé avec Laurent Alexandre devant la Maison de l'Amérique latine sur le boulevard Saint-Germain. Ça fait partie des lieux que vous voulez nous faire visiter. Mais on va rentrer, vous nous expliquerez pourquoi. Alors nous sommes entrés dans la Maison de l'Amérique latine. On est à deux pas du métro Solferino et de l'ancien siège du Parti Socialiste qui a été vendu en 2017. C'est pour ça qu'il a souvent fêté ici ses victoires électorales, hein, celle de François Mitterrand en 1988, celle de Lionel Jospin aux législatives en 1997 et même celle de François Hollande à la primaire de la gauche en 2011. À chaque fois, c'était fêté ici, entre ce bel hôtel particulier avec ce beau jardin. Alors, Laurent Alexandre, pourquoi ici ?
Alors, c'est un petit peu une nostalgie. J'ai adoré la médecine et j'ai pratiqué la chirurgie urologique avec passion, mais j'ai vécu un moment où les médecins se sentaient mal aimés, aigris, paupérisés, mal considérés par la société. Ici, c'est le symbole d'une médecine toute puissante. Cet extraordinaire hôtel particulier, il est un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, avec un jardin qui est fantastique, merveilleux,
était la maison de Charcot, le professeur Charcot, l'inventeur de la psychiatrie moderne, qui a été l'élève de Freud, puisque Freud est venu étudier à la Salpêtrière et a suivi les cours de Charcot. C'est là aussi qu'a vécu pendant sa jeunesse le commandant Charcot, l'explorateur des pôles. Cette époque où la médecine était magnifique et puissante est en décalage assez fort avec la paupérisation actuelle des médecins. Et ça me rend un peu nostalgique de voir à quel point les médecins sont passés de riches propriétaires d'hôtels particuliers pour les plus grands professeurs à des gens malheureux qui ont du mal à boucler les fins de mois.
Vous-même, vous êtes devenu très riche en créant Doctissimo, en le revendant. On peut encore s'enrichir en étant médecin.
Pas en pratiquant la médecine, hélas. Il serait dommage que seuls les entrepreneurs comme moi, seuls les financiers médecins puissent devenir riches. Ce serait pas mal que les grands savants, que les grands médecins, que les grands professeurs de médecine, que les grands chirurgiens puissent gagner leur vie correctement au lieu d'avoir des niveaux de vie qui ressemblent plus aux médecins soviétiques qu'aux médecins américains.
Eh bien, passons dans le jardin, Laurent Alexandre. C'est vrai qu'il est très très beau. Il est là sur la terrasse. Devant nous, il y a un gazon, des statues, une sculpture moderne. C'est très calme. On n'entend plus les sirènes de pompiers, de la police.
Là encore, c'est le symbole d'une France conquérante, d'une France qui n'attendait pas la fin du monde, mais d'une France qui construisait le futur, qui était maîtresse du futur et qui était fascinée par le futur. Avec ces écrivains qui disaient du bien de la ville lumière et qui prévoyaient mille et un bienfaits apportés par la science et par la technologie. J'ai une profonde nostalgie de cette époque où la France aimait le futur. Et je suis profondément désespéré du fait que les Européens soient devenus aujourd'hui des réactionnaires qui ont peur de leur ombre et qui n'écoutent plus que les prophètes de malheur qui leur annoncent la fin du monde. La France devrait retourner un tout petit peu sur son éthique de 1900 et écouter un peu moins Greta Thunberg.
Laurent Alexandre, vous savez bien que tout cela n'est pas arrivé par hasard. En 1900, on croyait au futur et puis est arrivée la guerre de 14. 1,5 million de morts.
Je n'ai pas dit que le passé était toujours gai, mais en tout cas, même quand il y avait des épreuves, et la guerre de 14-18 en a été une terrible, les gens ne prévoyaient pas la fin du monde à chaque instant.
Ceux qui étaient dans les tranchées, si, peut-être. La brutalisation de la guerre les a surpris, comme elle a surpris tout le monde. Et au fond, on a fait une guerre sans aucun absurde pendant 4 ans. Toute l'Europe s'est suicidée ce jour-là, ne croyez-vous pas ?
Oui, oui. L'absurde de la guerre de 14-18 a été manifeste et il a d'ailleurs conduit par réaction au mouvement culturel des années folles pour oublier cet instant de folie qui a été le premier des 3 suicides européens, puisque le premier suicide européen, c'est 14-18, le deuxième, c'est 39-45, et puis le troisième, c'est l'entrée de l'Europe dans la folie collapsologique et son rejet de la technologie au moment où la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine se fait sans l'Europe et se fait surtout sur le dos de l'Europe.
Vous avez beaucoup choqué récemment, Laurent Alexandre, en écrivant dans l'Express qu'un ouvrier aujourd'hui vivait beaucoup mieux que Louis XIV en son temps.
Il n'y a pas photo. Si vous avez à choisir entre vivre la vie de Louis XIV et être un ouvrier de 2020, choisissez d'être ouvrier. Moi, personnellement, je ne voudrais pas être Louis XIV, je préfère être un ouvrier. Louis XIV a été malade pendant des décennies, il a perdu sa dernière dent à 42 ans, il ne mangeait plus que de la purée après, il était en permanence malade, il n'y avait pas d'antalgique à l'époque. Quand il a eu sa fistule anale, il a fallu 12 opérations de 4 heures, sans anesthésie, sans antalgique pour le traiter. Le roi hurlait, attaché sur son lit, à une époque où l'anesthésie générale n'existait pas, attaché sur son lit par ses serviteurs. Il souffrait le martyre. Il a eu une vie absolument épouvantable. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'était la vie des gens avant qu'arrivent l'aspirine et le paracétamol.
Et là, c'est le médecin qui parle, mais on peut dire que sous Louis XIV, même Louis XIV mourait de froid dans le château de Versailles.
Oui, il mourait de froid, il faisait sombre au-delà de ce qu'on imagine, puisqu'il faut 100 bougies pour fournir la même lumière qu'une mauvaise ampoule électrique. Donc Versailles était très sombre, Versailles était froid. Le vin ne gelait pas tous les jours sur la table du roi, mais il est déjà arrivé que le vin gèle sur la table du roi. C'est dire à quel point, malgré des feux de cheminée nourris, on avait froid à cette époque-là. Je pense qu'à cette époque-là, ils auraient aimé l'idée d'un réchauffement climatique.
On sentait mauvais aussi, on ne se lavait pas, on avait peur de l'eau à l'époque.
Le roi ne se lavait jamais, mais il utilisait de temps en temps des serviettes humides. Et c'est de là que vient le mot « faire sa toilette », parce que c'était à partir de toiles humectées qu'il se lavait de temps en temps, mais très très rarement. C'est une autre époque
où
la pudeur d'ailleurs était très très différente d'aujourd'hui, puisque le roi allait aux toilettes devant ses courtisans, ce qui aujourd'hui paraîtrait assez inconvenant.
On manquait d'informations, on manquait de distractions aussi. C'est vrai que c'est une époque dont on peut se dire que la nôtre est bien meilleure et qu'il vaut mieux effectivement être un ouvrier aujourd'hui, qu'on vit mieux et dans un plus grand confort en étant un ouvrier aujourd'hui qu'en étant le roi à Versailles au XVIIe siècle.
Mais les syndicats qui n'ont pas beaucoup aimé cet article, et j'ai vu des syndicalistes m'engueuler, ont dit « vous dites ça pour justifier le fait que le pouvoir macroniste traite mal les gilets jaunes ». Non, je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit dans la politique actuelle, juste pour dire que le passé était épouvantable, contrairement à ce qu'on nous raconte.
Certes, mais en même temps, quand il y avait une guerre, et il y en a eu de nombreuses sous Louis XIV, elle faisait très peu de morts, au fond. Aujourd'hui, s'il y en avait une vraie, j'entends, vous savez bien que ce serait catastrophique.
Sauf que les guerres aujourd'hui ne font quasiment plus de morts, parce que les guerres sont technologiques. La guerre entre Trump et la Chine ne fait pas de morts. Elle va faire peut-être des morts parmi les entreprises, mais ce ne sont plus des morts humains. Et de toute façon, avec l'arrivée de la robotique demain sur le champ de bataille, nous ne verrons plus des hommes, parce que face à un robot doté d'intelligence artificielle, voyant dans le noir et ayant des réflexes ultra rapides, aucun militaire, même un excellent soldat, n'aura la moindre chance. Donc la guerre de demain sera purement technologique.
Certains voudraient interdire les robots tueurs.
Oui, mais on a tort. C'est-à-dire, si on interdit les robots tueurs pendant que les autres en font, on va envoyer nos enfants à la boucherie face à des robots sans aucune chance. Et franchement, c'est une grosse connerie d'interdire les robots tueurs. Il vaut mieux que nous envoyions des robots tueurs face aux robots tueurs d'en face, au lieu d'envoyer nos enfants se faire massacrer dans 100% des cas face aux robots tueurs du camp adverse. C'est une idée bienveillante et complètement conne d'interdire les robots tueurs, mais une fois de plus, c'est le signe que l'Europe est complètement décalée, bisounours, enfantine, et ce rêve dans un temps où elle avait les clés du monde, l'Europe n'a pas complètement vu que le leadership européen sur le monde a cessé et que notre déclin technologique devrait nous rendre plus humbles et nous pousser à investir davantage dans la recherche, dans la technologie, au lieu de nous complaire dans une fascination morbide pour un passé qui était horrible.
Eh bien, nous allons quitter l'ancien hôtel particulier du professeur Charcot, la maison de l'Amérique latine, et continuer notre balade sur le boulevard Saint-Germain avec Laurent Alexandre.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Nous sommes toujours en balade avec Laurent Alexandre. On est entré dans la rue Saint-Guillaume, la rue de Sciences Po, une école que vous avez faite. Laurent Alexandre, vous avez fait médecine et puis à un moment, vous êtes allé à Sciences Po. Vous ferez même l'ENA et faisiez Sciences Po alors que vous continuiez de faire médecine au moment de votre spécialisation en neurologie. Pourquoi Sciences Po et pourquoi l'ENA quand on est médecin ?
Oh, j'avais vraiment envie de comprendre les dynamiques politiques, les dynamiques sociales. Et puis, mes confrères étaient de plus en plus aigris, de plus en plus malheureux. Ils ne comprenaient pas pourquoi le ministère...
Médecin,
oui. Pourquoi le ministère ne les aimait pas. Ils avaient du mal à comprendre les comités de la santé. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être aigri et je veux comprendre un tout petit peu les dessous des cartes.
On peut faire médecine et Sciences Po, médecine et l'ENA.
Oui, c'est possible.
En même temps, je veux dire.
Oh, j'ai pris par moments des disponibilités. Et puis j'ai beaucoup travaillé. À l'époque, j'étais pas une grosse feignasse. Je travaillais un peu, ouais.
Vous avez fait en plus un MBA à HEC en même temps que tout cela.
Ouais. J'avais une bonne mémoire et je dormais très peu et je bossais beaucoup. C'est la recette du succès. Hein. Faut pas être très malin. Faut beaucoup bosser pour réussir.
Frédéric Taddeï se balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Et donc nous voilà devant Sciences Po et on retrouve votre amie Frigide Barjot. Bonjour Frigide Barjot.
Bonjour, bonjour, salut Laurent.
Bonjour
Frigide
Barjot.
Salut Frédéric.
Comment
je m'appelle maintenant ?
Non, votre vrai nom peut-être.
Voilà,
Virginie Merle.
Alors, ça c'est de naissance. Oui. Et puis je suis une femme mariée avec Bruno Tellen, oui. Alias Basile de Coq.
Voilà, donc Virginie Tellen.
Je suis redevenue Virginie Tellen.
Moi je préfère Frigide Barjot, c'est quand même plus rigolo.
Ouais, et puis il aime bien parce que c'est plus polémique.
Vous étiez à Sciences Po, à l'époque vous étiez Virginie Tellen.
Merle.
Non, Virginie Merle à l'époque.
Hein. Arrivée de Lyon en 1985 par amour réciproque. Pour Philippe Lambron, mon premier amoureux gay, et qui me demandait de venir le rejoindre à Sciences Po. Et en même temps, moi, je rêvais de mettre mon absence de talent au service du service public. Donc, j'ai fait Sciences Po service public. Et qui ai-je eu comme professeur en économie libérale ? François Hollande. Je dis ça à mon ami Laurent, qui lui-même étant plutôt un ultra-libéral. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des socialistes qui nous apprennent le grand marché unique européen, la monnaie européenne, etc., la monnaie unique. François Hollande et Pierre Moscovici, qui étaient les vedettes de Sciences Po.
D'accord. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, vous avez été la première porte-parole de la Manif pour tous avant de vous faire licencier.
Oui, licencier sans préavis.
Et aujourd'hui...
Et un peu violemment.
Voilà, aujourd'hui, c'est Avenir pour tous.
C'est cela. Donc, en fait, je suis parti du haut des manifs, je vous rappelle, 3 fois 1 million. Ça n'existe pas dans l'histoire.
1 million de gens dans la rue.
Oui, ouais. De gens, pas d'argent. Enfin, d'argent, beaucoup plus. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Mais de gens, effectivement. Et ça, c'est quasi historique dans l'histoire de la démocratie ou pseudo-démocratie française, de façon récurrente et en allant en augmentant. À la tête de ces manifs, si on avait autant de monde, c'est parce que ce que nous prônions à l'époque, c'était de ne pas changer le modèle structurant de la procréation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la filiation biologique entre l'homme et la femme, ce qui n'empêchait pas d'accueillir des familles homosexuelles, homoparentales, mais qu'elles aient un père et une mère biologique, d'où le slogan, Laurent, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme avant sa modification génétique par la PMA.
Mais ce ne sera pas vrai dans le futur, puisque dans le futur, tu fais déjà chez l'animal, on pourra faire un bébé avec deux papas ou deux mamans. On n'aura pas besoin d'un papa et d'une maman grâce aux biotechnologies.
Et c'est là où vous différez, en dépit du fait que vous avez fait Sciences Po tous les deux.
Mais on a fait plein d'autres trucs tous les deux. Des enfants, naturellement.
Non, mais pas ensemble.
Mais non, mais évidemment.
Moi, je les ai fait avec ma femme.
C'est cela, et moi avec Basile.
Pas avec Frigide Barjot.
Ni avec Basile de Coq, pas encore. Non, ce qu'on a en commun, moi, je trouve, c'est d'abord qu'on est des opposés... pas idéologique, j'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire que l'on se fait la guerre, non, mais Laurent est exactement à mon opposé de l'ordonnancement du monde et de la création. Pour lui, Dieu n'existe pas et Jésus non plus, même pas historiquement, n'est-ce pas? C'est un négationniste de Jésus.
Je suis moins mystique que toi, c'est sûr.
C'est comme ça qu'il dit les choses. Bon.
Mais vous pensez qu'on peut se passer de la procréation biologique?
Ah ben je pense même qu'on va le faire. C'est-à-dire, je suis persuadé, et ça commencera en Chine, je suis persuadé que la fécondation traditionnelle va disparaître parce que la seule façon de faire des bébés à la carte, c'est de faire des fécondations in vitro. C'est-à-dire, si on fait les bébés comme on les a fait traditionnellement, on ne peut pas modifier l'embryon. Pour modifier l'embryon, il faut que l'embryon naisse en éprouvette.
Voilà. Alors ça, je dois dire que je lui rends hommage. Je l'appelle mon prof croco sur Twitter. J'ai compris qu'en modifiant la filiation légale, on ne la reliait plus à la filiation génétique. Parce qu'il fallait aller dans l'éprouvette pour y modifier les gènes, justement. Et il a fallu que je rencontre ce brillant... Je ne sais même pas comment le qualifier. Qu'est-ce que tu es exactement ? Urologue. J'ai vu que tu avais été magistrat.
En sortant de l'ENA, c'est normal.
Bon, d'accord. En tout cas, j'ai compris le lien.
Urologue et futurologue aussi.
Et futurologue et surtout chef d'entreprise. C'est un médecin qui a compris que la médecine décodait le code humain, le code vital, le code génétique... pour en faire autre chose, le transmettre dans un autre être. Et c'est là où moi, je ne suis plus tout à fait d'accord. J'aimerais bien rester un peu bio-humaine et pas bio-conservatrice.
Non, tu es bio-réactionnaire. Tu refuses la révolution génétique.
Mais vous y voyez un progrès, Laurent Alexandre.
Hein. Ah ben je pense que de choisir nos bébés, c'est mieux que de subir le hasard darwinien, le hasard de la sélection naturelle. Oui, je pense que c'est inévitable à moyen terme, même si ça va prendre quelques décennies.
Bon, il appelle ça le hasard. Enfin, mon ami le croco Laurent appelle ça le hasard. C'est pas le hasard, c'est Dieu. Sinon, il serait pas là.
Oui, mais Dieu n'existe
et
pas.
Tu n'as pas. Oui, ça c'est ce que tu dis. Il s'avère qu'il reste encore à peu près 74% de la population mondiale qui croit que Dieu existe.
100% de la population mondiale pensait que la Terre était plate.
Oui, mais ça c'était il y a un moment.
Oui, mais
il faut un petit temps avant que tu aies Dieu complètement.
Vous allez évoluer tout doucement. On vous laisse encore quelques décennies.
Oui, plus la technologie avance. Cela dit, plus je vois quand même des gens qui se raccrochent à Dieu, justement parce qu'ils ne veulent pas disparaître dans cette autophagie, comme on dit des cellules. Hein, prof ? C'est comme ça qu'on dit ? Oui, l'autophagie. Oh,
il souffle.
Je souffre.
on va le laisser souffrir un instant. Je vous propose d'écouter, mais de rendre hommage à quelqu'un qui était élève à Sciences Po aussi. C'est la chanteuse Camille.
Très bien.
Elle était à Sciences Po.
Avec Anne Roumanoff.
Sans doute, oui, parce que Dieu sait s'il y a eu des gens très divers qui ont fréquenté cette école. Et elle, son premier album, Camille, elle l'a fait valider comme stage à Sciences Po. Ça s'appelait Le Sac des filles. Et dedans, il y avait une chanson qui s'intitulait Paris. On écoute Paris. Et on se retrouve juste après.
Très bien.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales. C'est fini Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, 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 que je te quitte, que je change de cap de capitale. Paris, 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 que je te quitte, je te place. Ta bouche, bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau. C'est fini Paris, je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit. On dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas Paris, la nuit s'éveille à minuit. Paris, Paris, que je te quitte, que je change de cap de capitale. Paris, 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 que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale.
C'était Paris, interprété par Camille, ex-élève de Sciences Po. On se retrouve dans un instant avec Laurent Alexandre et avec, ça n'est plus Frigide Barjot, c'est désormais Virginie Tellen, mais elle reste avec nous. De retour dans la rue Saint-Guillaume avec Laurent Alexandre et... Et Virginie Tellen, ex-Frigide Barjot.
Non, toujours Frigide. Elle est juste un peu en réparation. Voilà.
C'est ça, elle a souffert.
Elle a un peu souffert sous Ludovic.
Voilà. Qu'est-ce que... Vous avez de bons souvenirs, tous les deux, de cette école ? Sciences Po ?
À moi, magnifique. Mais alors, ce que je sais pas, c'est quand tu y étais quand? Parce qu'on n'y était pas ensemble, en fait.
Moi, j'y étais de 87 à 90.
Ah, il est arrivé quand je venais de sortir. C'est incroyable. Diplômé 87. Ouais.
Et je me souviens de cette époque. Il y a un lien d'ailleurs avec ce que tu as fait et ton opposition au mariage gay. Je me souviens de l'époque où j'étais à Sciences Po et où l'épidémie de sida battait son plein. Et quand je vois les jeunes derrière Greta Thunberg expliquer que le monde actuel est horrible et que le passé était merveilleux, je pense qu'il faudrait les envoyer en stage en 1990 quand on risquait chaque fois qu'on baisait d'attraper le sida, que l'espérance de vie des gamins sidéens elle était de 11 mois. Et en tant que jeune médecin à l'époque, j'ai vu beaucoup de gamins mourir du sida. Cette époque n'était pas du tout une époque bénie. Et les gamins d'aujourd'hui, au lieu de crier à la fin du monde avec Greta Thunberg, ils feraient franchement mieux de regarder à quel point la vie des jeunes était difficile dans cette décennie où avoir des rapports sexuels pouvait être la promesse d'une mort atroce et très très rapide.
On reparlera tout à l'heure de Greta Thunberg parce que la dent que vous avez contre elle quand même nécessite quelques explications, mais restons avec
Alors
Frigide
malheureusement
Barjot.
Oui, je dois dire que moi-même j'ai perdu donc mon meilleur ami qui m'avait fait venir ici, et cette épidémie on l'a tous connue, d'autant que moi je faisais beaucoup la fête, comme tu le sais, comme vous le savez, cher Frédéric, notamment avec des gens que vous connaissez. Et il y avait, j'aimais beaucoup quand même cette époque qui était assez insouciante. D'ailleurs, Ryan Chemin en a fait un livre en 86 appelé La Promo. On retrouvait beaucoup de gens.
La Promo de Sciences Po.
La Promo, voilà. Il y avait un chapitre dont j'ai l'honneur d'avoir un chapitre comme Frigide Barjot et Les Jalons. On faisait des tas de parodies déjà.
Les Jalons, c'était un groupe d'intervention culturelle
qui parodiait tout. Même les grands oraux de Sciences Po, les manifs contre le froid, la manif, enfin voilà, on en a fait plein.
La manif contre le froid était restée célèbre, c'était au métro glaciaire
en 85.
Et la banderole, c'était le froid assassin,
Mitterrand complice. Homme. Et puis alors, il y avait eu au moment des époux de Thuringe aussi, il y avait comme slogan homme grenouille, même combat. Tu vois, on retrouve déjà nos amis véganes.
Et vos débuts dans la manif, au fond.
Voilà.
Vos débuts peut-être de là.
Mais je rappelle que je faisais déjà des manifs en 83 à Lyon contre la loi Savary. Donc en fait, moi, je suis un peu une militante et je pensais que je viendrais juste apprendre les rudiments de l'État et donc que je me mettrais au service de l'État. Mais assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, nos hommes politiques ne nous emmenaient pas du tout là où on voulait. J'étais une gaulliste hystérique et pas historique et je voyais que la nation, l'État, la famille, tout commençait à se déliter. Et donc, j'ai eu une conversion. Voilà.
Une première
conversion. Mais avant la conversion à Jalons.
Avant la conversion au Christ.
Mais et puis, si, non, mais ça a été lié, ça je dois le dire, et ça il faut que Laurent se rende bien compte de cela, c'est qu'en fait, c'est en découvrant la vie de couple, parce qu'à un moment quand même, il faut se calmer, il faut faire des enfants. Vous savez, quand j'ai dit à Basile, ça y est, ce coup-ci on fait un enfant, quand j'ai appris que mon père était mort. La mort n'était pas supportable, il fallait redonner la vie. Et là, on a tenté de faire notre premier bébé. Ça n'a pas été facile, mais bon, on y est arrivé quand même. Et puis petit à petit, comme ça, je suis repassée. J'ai vu que Jacques Chirac ne disait pas la vérité, que ceux qui allaient... Même Alain Madelin, le grand copain de Laurent Alexandre, ne nous emmenait pas non plus. Il a été un ministre un peu éphémère. Et puis finalement, voilà, je suis passée à l'église.
il vous fallait une idéologie.
Mais vous appelez ça une idéologie. Disons que c'était une foi, que c'était Dieu. Parce que je pense qu'il y a quand même une intelligence supérieure, même supérieure à celle de Laurent Alexandre, ce qui n'est pas évident, qui nous a mis ici-bas. Et ça, tant qu'on ne m'aura pas expliqué pourquoi je suis venue, ce qui n'intéresse pas beaucoup M. Alexandre d'ailleurs, parce que lui, il préfère savoir comment il va former les autres à une autre entité, qui sera la divinité technologique de l'intelligence artificielle.
Arrête de dire du mal d'Homo Deus.
Mais voilà, tu vois, mais Homo Deus s'appelle Jésus-Christ dans ma vision des choses, tu comprends ? C'est pour ça qu'on est des opposés parfaits. C'est pour ça que je l'aime autant, Laurent Alexandre, et que j'aimerais bien qu'on fasse un livre ensemble sur Dieu et l'intelligence.
Homo Deus, pour vous, c'est qui alors ?
Homo Deus, c'est l'homme de demain, c'est l'homme 2.0. Nous sommes en train de tuer l'homme 1.0, qui est soumis au hasard génétique, au hasard biologique, et nous sommes en train de créer l'homme 2.0, qui est un homme démurge, doté de toute la puissance des technologies transhumanistes. Et c'est ce qui fait aussi peur aux catholiques intégristes. Je ne parle pas pour toi, Frigide.
Pas seulement, Laurent Alexandre, parce que quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Jacques Attali. Il a lui aussi très très peur de cette
homo 2.0. Ah oui, moi, il tweet qu'il faut faire attention.
Il a peur de la réification de l'espèce humaine.
Non, mais je suis persuadé que Jacques Attali va accepter l'arrivée d'Homo Deus et de l'homme 2.0, et je ne crois pas qu'il soit un vrai bio-réactionnaire définitif.
En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'entre le bioréactionnaire définitif, qui veut une seule forme de famille, une seule forme de nation, et qui finalement clive et ne réunit pas autour de l'humanité biologique, l'humanité homme et femme, j'apprends avec désespoir que même l'Église vient de d'effacer les mots de père et mère des certificats de baptême.
Ça fait un an déjà, mais c'est seulement maintenant qu'on l'apprend.
Comme par hasard, ça sort maintenant, à deux jours de la, enfin, avant que la loi soit votée au Sénat. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une autre façon, et c'est ce que nous, nous disons à l'avenir pour tous. Et c'est pour ça qu'en fait, Laurent sait très bien que je ne suis pas une bio-réactionnaire, mais une bio-humaniste.
Ah bah, tu n'es pas bio-réactionnaire, tu es même favorable au mariage gay maintenant.
Voilà.
Donc tu as beaucoup évolué. D'ailleurs, j'ai vu des cathos intégristes me dire que tu étais une gauchiste irresponsable depuis que tu es devenue favorable aux unions gays.
Je suis toujours été gay-friendly depuis le début de ma vie. Les garçons homosexuels m'adorent, c'est comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ceux-là même peuvent avoir un enfant, et je ne l'ai jamais renié, mais simplement leur enfant doit avoir une maman. Qui peut être évidemment la meilleure amie, comme ça se pratique depuis 50 ans.
Ou même depuis 100 000 générations.
100 000 générations. Non, à un moment, ils étaient un peu obligés de se marier malgré tout, et leur maîtresse était un amant. Voilà, bon, ben voilà. Et ben maintenant, ça, tout le monde se marie, et on peut faire son enfant indépendamment du couple procréatif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça devrait être égalitaire et dans la loi. Je suis désolée, là, je redeviens un peu sérieuse, parce que c'est quand même mon combat à l'avenir pour tous. Que dans la loi, si mon professeur Laurent, mon professeur en transhumanité, hein, pas en tout, mon professeur Laurent voulait vraiment que les humains acceptent de la transition, parce que c'est une transition, c'est évident, quand on change la procréation et la filiation, on change l'humanité. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait... Il a écrit La guerre des intelligences, où j'ai compris ce qui se passait, enfin, le cursus, l'évolution... Mais on pourrait commencer déjà par la concurrence des procréations. Aujourd'hui, la loi ne va pas être égalitaire. On ne pourra pas proposer à égalité à deux femmes de faire un enfant avec leur meilleur ami homme. C'est interdit par la loi. Enfin, c'est pas interdit, mais c'est pas ouvert de la même façon qu'avec une semence qui sera évidemment bien plus facilement modifiable dans la boîte de Pétri. Moi, je veux toutes les deux procréations. L'artificielle de son intelligence artificielle et la biologique avec un rapport sexuel ou pas de rapport sexuel. On est libre. Mais une gynéco qui vous insémine avec le papa présent. Vous voyez ? Vous comprenez, Frédéric ?
J'ai bien compris.
Voilà, Lolo.
Ben merci, Frigide Barjot, de nous avoir rejoints de votre ancienne école. On va continuer notre balade, Laurent Alexandre.
Ouais. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Et bonne année.
Et bonne année. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Laurent Alexandre. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Laurent Alexandre, chirurgien urologue, énarque, entrepreneur, agitateur sur les réseaux sociaux, l'auteur de La mort de la mort, de La guerre des intelligences. Laurent Alexandre, vous menez un combat sans répit contre Greta Thunberg. Depuis le début de notre balade, vous avez souvent fait allusion à cette jeune fille qui, après tout, ne fait que dire ce que les scientifiques nous disent depuis plus de 20 ans, les scientifiques du GIEC en particulier, une jeune fille qui nous adjure, et nous les adultes, et surtout les chefs d'État, de prendre nos responsabilités. Alors pourquoi lui en voulez-vous si fort ?
Alors c'est pas vrai que Greta Thunberg ne fait que répéter ce que dit le GIEC. Elle tient des propos pessimistes, elle explique qu'il faut que nous paniquions, elle explique qu'il ne faut pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de futur, parce qu'il n'y a pas d'avenir. C'est pas du tout le propos du GIEC. En réalité, Greta Thunberg projette ses propres angoisses, sa propre dépression sur le monde, et elle a tendance à décourager les jeunes. On voit déjà en Angleterre des gamins qui se sont suicidés par peur du réchauffement climatique. Je ne voudrais pas que ça devienne une épidémie. Je pense que ce discours apocalyptique est très dangereux. Les discours de fin du monde ont toujours été dangereux, aujourd'hui autant que dans le passé. Et en tant que médecin, les épidémies de suicide, c'est pas quelque chose que je souhaite promouvoir. Je pense que les jeunes doivent vivre leur jeunesse avec une certaine insouciance. C'est le bel âge. C'est pas un moment où on doit préparer... la fin du monde et sa disparition dans l'enfer du réchauffement climatique. Donc le discours que développe Greta Thunberg est un discours mortifère. D'autre part, ça n'est pas uniquement un discours climatologique. Quand elle a écrit le mois dernier que le réchauffement climatique était lié au patriarcat raciste et colonialiste, c'est un discours de gauchisme intersectionnel et pas du tout un discours climatologique raisonnable.
Vous lui reprochez aussi, j'ai l'impression, de nous dire que si le système ne veut pas changer, il faut changer de système. Et ce qu'elle entend par système, c'est le capitalisme.
Oui, je me méfie beaucoup des gens qui expliquent qu'il y a de meilleurs systèmes. Tous les gens qui nous ont poussé dans le passé à changer de système ont beaucoup de sang sur les mains et ont créé beaucoup de dictatures. Comme je suis un amoureux de la liberté, que je suis un libéral, je défends la liberté pour chacun, pour tous et pour toutes. Je me méfie des gens qui veulent des révolutions, car il n'y a jamais de révolution sans tyrannie, il n'y a jamais de révolution sans sang. Ce n'est pas quelque chose qui me fait fantasmer les lendemains révolutionnaires, qu'ils soient rouges, bruns ou verts.
Frédéric Taddeï se balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Mais Laurent Alexandre, vous dites que vous n'êtes pas climato-sceptique, que vous croyez vous aussi au réchauffement climatique. Donc si on ne prend pas le genre de mesures que préconisent les Greta Thunberg, pas seulement elle, mais aussi la plupart des scientifiques, à savoir de cesser de prendre nos voitures, de cesser de prendre l'avion, ou du moins de le prendre moins, d'arrêter d'envoyer des vidéos et des photos par Internet, d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter d'acheter des tonnes de fringues, parce que tout ça finit dans l'atmosphère sous forme de CO2. Vous, que préconisez-vous ?
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. On peut tout à fait...
C'est ce que les autres disent, moi je n'en sais rien.
Non, on peut tout à fait consommer avec une énergie qui est produite sans émettre de carbone. Par exemple, l'électricité en France est décarbonée grâce au nucléaire. Et quand un Français allume la lumière, il émet 8,6 fois moins de CO2 qu'un Allemand, puisque l'électricité française émet 8,6 fois moins de CO2 que l'électricité allemande.
Parce que les Allemands ont renoncé aux centrales nucléaires.
Bien sûr. Pour le dire autrement, il vaut mieux être un salaud français pour l'environnement, il vaut mieux être un salaud français qu'un écologiste allemand vertueux, parce que même un écologiste allemand qui se serrerait la ceinture et qui consommerait 5 fois moins d'électricité qu'un français, il émettrait encore 2 fois plus de CO2 que le français. Donc mieux vaut un salaud en France qu'un écologiste en Allemagne. Et si les écologistes allemands étaient raisonnables, ils viendraient habiter en France pour diminuer leur empreinte CO2.
Mais là, nous sommes au beau milieu d'un embouteillage sur le boulevard Saint-Germain. On arrive place Saint-Germain-des-Prés. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures. Et vous vous dites, mais au fond, même là, toutes ces voitures-là polluent moins qu'autrefois. Vous êtes tellement progressiste que vous pensez qu'on ne pollue plus.
Oui, les émissions de pollution sont beaucoup moins fortes. D'ailleurs, si vous prenez la teneur en plomb à Paris, elle a été divisée par 1000 depuis 25 ans, ce qui prouve bien que nos voitures, qui étaient les principales émettrices de métaux lourds et de plomb, sont beaucoup moins polluantes qu'avant. La pollution de l'air à Paris s'est effondrée. Les émissions de smog, le SO2, le dioxyde de soufre, ont été à Londres et à Paris divisées par 1000 depuis 1955. On respire beaucoup mieux aujourd'hui à Paris qu'en 1950, et même beaucoup mieux qu'au Moyen-Âge, où l'air était irrespirable à cause de la fumée issue du chauffage au bois.
Nous sommes devant les deux magots. Vous vouliez qu'on aille y prendre un verre. Eh bien, entrons.
Frédéric Taddeï, en balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Nous sommes attablés au De Magot, 6 place Saint-Germain-des-Prés, un café bien connu, inauguré en 1885. À l'époque, c'était Arthur Rimbaud et Paul Verlaine qui avaient leurs habitudes. Plus tard, ce seront les surréalistes autour d'André Breton, puis les existentialistes autour de Sartre. Les garçons de café sont vêtus à l'ancienne, et le chocolat chaud est lui aussi fait à l'ancienne, à partir de carrés de chocolat et non de poudre de cacao. Pourquoi vouliez-vous que nous venions ici, Laurent Alexandre ?
Ah, parce que nous sommes à l'épicentre de ce qui est le plus troublant dans la culture française. La fascination des intellectuels pour les tyrans, pour la tyrannie, pour les tyrans sanguinaires. Et Théodule Magot, plein d'intellectuels qui ont adoré Pol Pot, qui ont adoré Staline. Sartre n'est pas le seul exemple.
Il n'a pas adoré Pol Pot.
Sartre, Staline. Non. Au moment où Staline existait, Sartre expliquait que les anticommunistes étaient des chiens. Et c'est l'époque où Aron était conspué parce qu'il croyait en la liberté et où les gens qui adoraient le goulag étaient des héros intellectuels qui fascinaient la jeunesse française.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, André Breton est à la tête des surréalistes, a adhéré au Parti communiste en même temps qu'Aragon.
Mais à l'époque de Breton, on ne savait pas encore ce que faisaient Staline et ses prédécesseurs. Alors que du temps de Sartre, Sartre était aveugle et a refusé de voir les millions de morts du goulag.
Et aujourd'hui ?
Ah ben aujourd'hui, on va trouver des intellectuels qui vont être fascinés par les tyrans verts, par la dictature verte, par les Khmers verts, par les ayatollahs verts. On voit la délectation de certains intellectuels français qui décrivent un monde futur où on n'aura pas le droit de regarder des vidéos porno, on n'aura pas le droit de manger une entrecôte, pas le droit de prendre l'avion, où tout sera interdit. Et les intellectuels ont bien compris que finalement... celui qui contrôle le CO2 contrôle la vie, puisque tout ce que nous faisons émet du CO2. Faire un bébé émet beaucoup, beaucoup de CO2. Prendre l'avion émet du CO2. Et donc, au travers du contrôle du CO2, on peut contrôler nos vies. Et pour des intellectuels tyranniques, c'est extraordinaire de contrôler la vie des autres. Et en ce sens, c'est la poursuite, finalement, de ce courant intellectuel français très sadomaso, où on adorait mettre les gens en prison et où on aimait plus les tyrans que les humanistes. Sur un siècle plus terrible dans l'histoire des idées en France, c'est que les gens qui défendaient la liberté humaniste étaient minoritaires et que les gens qui adoraient Pol Pot étaient majoritaires. Ce serait bien.
J'exagère un peu pour Pol Pot.
Ce sera bien qu'on ne refasse pas les mêmes conneries avec l'idéologie décroissantiste verte et qu'on ne mette pas en prison demain les mangeurs d'entrecôtes.
Europe 1, 11h30, en balade avec Laurent Alexandre, Frédéric Taddeï.
Plusieurs fois déjà, vous avez effectivement alerté sur le risque que l'Europe se suicide une nouvelle fois, mais cette fois-ci par la dictature. En même temps, y aurait-il un autre moyen d'opérer cette transition écologique que les scientifiques, encore une fois, que les gens du GIEC appellent de leur vœu, sans en passer par la dictature ? Est-ce que les gens pourraient se soumettre naturellement
par par la technologie ? On n'a pas réglé l'épidémie de sida en mettant les sidéens en prison. On a réglé l'épidémie de sida par la science, par la médecine, par la biologie. Il y a des tas de pistes pour absorber le CO2, pour produire sans émettre de CO2, pour fabriquer de l'électricité sans CO2. La science va permettre de diminuer nos émissions de CO2
Parce qu'on nous dit c'est dans 7 ans, bien sûr, sera irréversible.
Sans passer par la dictature, mais le coup, on va tous mourir dans 7 ans, on nous l'a déjà fait plusieurs fois, puisque l'ONU avait annoncé en 1990 qu'en l'an 2000, les Maldives seraient submergées par les eaux, et comme vous le savez, ça n'est pas arrivé. Donc oui, nous avons un siècle pour faire la transition énergétique et la transition écologique, et on n'a pas besoin de passer par la case Pol Pot vert au passage.
Alors Alexandre, vous me faites penser à cette chanson Who Knows de The Quantic Soul Orchestra. Who Knows, c'est qui sait au fond de quoi demain sera fait. En êtes-vous sûr vous-même de quoi demain sera fait ?
Vous savez, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps dans l'Express un papier disant les futurologues vont dire de plus en plus de conneries. Dans un monde très compliqué, avec des révolutions sociétales, des révolutions technologiques extrêmement rapides, les futurologues, les prospectivistes vont dire effectivement énormément de conneries. Mais dans mon fort intérieur, je suis persuadé que nous n'allons pas mourir tous grillés. Je suis persuadé que les gens qui paniquent la jeunesse ont un agenda politique et veulent instituer une dictature verte. Et j'ai, moi, tout à fait confiance dans la science. Je ne crois pas une seconde que nous allons nous laisser dépasser par la crise environnementale. C'est un moment difficile à passer, mais on va gagner et on va régler ça sans supprimer nos libertés, contrairement à ce que les ayatollahs verts souhaiteraient.
Wounos, Quantique sous l'orchestra, et pendant ce temps-là, on va commander.
Frédéric Taddeï se balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it will bring my love to me. Who knows? Living and known another day.
De quoi demain sera fait, interprété par The Quantique sous l'orchestra. On se retrouve dans un instant avec Laurent Alexandre, toujours attablé au Demago. Nous sommes au Demago avec Laurent Alexandre, notre balade se termine, je ne peux pas ne pas vous parler de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle dont vous êtes devenu l'un des commentateurs obligés. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on appelle Laurent Alexandre. Pourtant, vous n'en êtes pas un admirateur effréné de l'intelligence artificielle.
Ah, je pense que l'intelligence artificielle est porteuse de plein de promesses, notamment dans mon métier, la médecine. Mais elle pose plein de problèmes politiques. La concentration des pouvoirs dans les géants du numérique, l'arrivée des dictatures numériques, les dictatèques ou technotatures comme en Chine aujourd'hui avec les caméras de surveillance dopées à l'intelligence artificielle qui surveille la population. Il y a plein d'enjeux sociétaux, éthiques, moraux, philosophiques, politiques à gérer. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui est davantage éthique et politique encore qu'un sujet technologique.
Oui, parce qu'on en est encore loin. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est de l'analyse statistique à grande échelle.
Oui,
ça va pas
mais
très très loin.
C'est pas parce que l'intelligence artificielle est con comme une bite qu'elle n'est pas politiquement dangereuse. On voit bien qu'elle est très conne, l'intelligence artificielle, et qu'elle n'égale pas du tout l'intelligence humaine, mais elle permet à la Chine de surveiller sa population de façon extraordinairement efficace. Donc il ne faut pas croire que sous prétexte que l'intelligence artificielle n'est pas aussi intelligente que nous, elle ne peut pas faire beaucoup de dégâts, notamment politiques, quand elle est aux mains des dictatures.
Vous dites que c'est pas la peine que tout le monde apprenne à coder, comme on se l'est dit à un moment, on s'est dit qu'il faudrait que tous les enfants apprennent à coder.
De vouloir que tous les enfants apprennent à coder est aussi con que de vouloir que tous les enfants soient généticiens ou astrophysiciens. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste. Être codeur, c'est très compliqué. Il faut un bagage logique et mathématique fort. On peut estimer qu'au maximum 20% des jeunes Français sont capables de coder. Tous sont capables de jouer sur Snapchat. Mais une minorité seulement est capable de coder, donc de faire croire à chaque Français qui va être capable de coder pourrait être source de grande frustration parce que ça n'est pas réaliste et les gamins vont être malheureux quand ils vont découvrir qu'ils ne sont pas capables parce que tous les gamins n'ont pas une très forte capacité mathématique.
Pourtant, vous dites qu'il faut, vous ne cessez d'insister sur l'éducation, sur la formation des adultes. Tout n'est pas perdu dans ce domaine pour vous. Là encore,
non, mais
je vous trouve plutôt progressiste.
Non, bien sûr, mais c'est très difficile. Vous savez bien que l'école est pleine de promesses, mais l'école ne marche pas très bien. L'école n'a jamais démontré sa capacité à réduire les inégalités intellectuelles, hélas. Et
pour vous, il n'y a que le transhumanisme, au fond, qui pourrait nous aider à réparer les inégalités intellectuelles.
On n'en est pas là. Peut-être qu'on peut trouver des méthodes éducatives qui réduisent les inégalités intellectuelles, mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Le dédoublement des classes de CP, en réalité, n'a quasiment pas augmenté le niveau des gamins. On a gagné, alors c'est un peu technique, c'est du jargon statistique, on a gagné entre 0,07 et 0,13 écart-type. C'est quasiment rien. Mais même dans les autres pays, quand le dispositif a duré longtemps, il ne réduit pas significativement les inégalités intellectuelles. La réalité, indicible, horrible et pas politiquement correcte, c'est qu'en 2020, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas de technologie scolaire, éducatif, qui réduit significativement les inégalités intellectuelles et c'est un énorme problème dans une économie de la connaissance où on aura demain moins besoin des gens moins doués sur le plan cognitif.
Mais si l'on en croit le classement PISA, par exemple, Singapour a réduit un certain nombre d'inégalités intellectuelles.
Singapour et la Chine, qui sont les deux pays leaders aujourd'hui sur le plan scolaire, ont un énorme avantage en matière scolaire, c'est que ce sont les pays où le quotient intellectuel moyen des enfants est le plus élevé au monde. À Singapour, le quotient intellectuel des enfants est 10 points au-dessus du quotient intellectuel français. C'est normal qu'ils apprennent plus vite que les petits Français. Donc, il ne faut pas croire que Singapour réussit très bien dans PISA parce que le système scolaire est magnifique. Singapour réussit très bien dans PISA parce que le quotient intellectuel des jeunes Singapouriens est très, très supérieur au quotient intellectuel des jeunes Français, hélas.
Les Français, déjà, n'aiment pas beaucoup les inégalités, mais ce que vous appelez les inégalités intellectuelles, qui seraient purement génétiques à vous entendre, c'est ce qu'on a le plus de mal à accepter.
Je n'ai jamais dit que l'intelligence est purement génétique. Elle est à entre 50 et 80% génétique. Il y a une part qui est liée à l'environnement culturel.
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
Un Perrier.
Un Perrier, pour moi, un chocolat à l'ancienne.
Évidemment.
Et puisqu'on est tous de magots, profitons-en.
Il n'y a pas que la génétique dans la détermination de nos capacités intellectuelles, mais la génétique est hélas majoritaire. Et l'un des enjeux, c'est de casser ce déterminisme génétique, justement, et de faire en sorte que l'école soit capable de remettre les gens au même niveau en cassant le déterminisme génétique. Contrairement à ce que les gens pensent, un déterminisme génétique, il n'est pas absolu. Un déterminisme génétique, il est fait pour être cassé. La leucémie de l'enfant, elle est 100% génétique. C'est toujours des anomalies de l'ADN qui entraînent la leucémie. Mais pourtant, on guérit les gamins. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est génétique qu'on ne peut pas lutter contre. Et c'est pareil pour les capacités intellectuelles. Ce n'est pas parce que l'intelligence est majoritairement génétique qu'on ne va pas trouver dans les décennies qui viennent des technologies, notamment éducatives, qui vont permettre de réduire les inégalités intellectuelles. La génétique, ce n'est pas un déterminisme absolu. Et d'ailleurs, la gloire de l'homme moderne, c'est de casser les déterminismes, notamment génétiques. Et demain, il va falloir qu'on travaille beaucoup, beaucoup pour réduire les déterminismes intellectuels.
Pour vous, Laurent Alexandre, non seulement le transhumanisme est progressiste, mais en plus, il est démocratique.
Bien sûr. L'un des objectifs principaux du transhumanisme, c'est d'augmenter les capacités intellectuelles des gens moins doués pour les mettre à égalité avec l'aristocratie de l'intelligence. Le transhumanisme ne veut pas créer une société à plusieurs vitesses, comme dans Le meilleur de monde de George Huxley, d'Aldous Huxley. Au contraire, le transhumanisme vise à diminuer les inégalités intellectuelles. Et le fondateur du mot transhumaniste, c'est justement Julian Huxley, c'est le frère d'Aldous Huxley. Et ce qu'il appelait transhumanisme, c'était en fait un eugénisme de gauche, un eugénisme égalitaire.
Positif, au fond.
Positif, où on se servait de la technologie pour réduire les inégalités intellectuelles entre les pauvres et les riches.
Mais vous vous rendez compte, si tout ça, comme souvent d'ailleurs avec la science, ça peut apporter le meilleur comme ça peut apporter le pire. Vous vous rendez compte, si ça nous apportait le pire au lieu du meilleur, quel cauchemar ce serait ?
En général, la technologie apporte le meilleur, même si de temps en temps, entre de mauvaises mains, elle apporte le pire. Regardez tout ce que la technologie nous a apporté depuis un siècle. Il y a beaucoup, beaucoup de très bons et un tout petit peu de mauvais.
Eh bien voilà justement nos consommations. Chocolat pour moi, eau gazeuse pour vous. Je vous remercie beaucoup, Laurent Alexandre, de nous avoir emmenés en balade avec vous.
Merci.
On va remercier la Maison de l'Amérique latine, on remercie également les deux magots, et je rappelle que parmi vos livres, il y a La guerre des intelligences, il y a aussi La mort de la mort, et puis on vous retrouve dans l'Express toutes les semaines pour votre chronique. Demain sera vertigineux. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon dimanche, pas trop vertigineux, et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.